Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un bonjour voisin spécial sur les animaux présenté par Brigitte Gauthière, moi-même, qui suis porte-parole de l'association L214, association de protection animale, qui va consacrer aujourd'hui cette émission au sort des vaches laitières. Et pour ce faire, je recevrai Philippe Salé, qui est un des porte-parole de l'association Novicène. Eh bien, je vais commencer par vous raconter une histoire qui est aussi vraie qu'elle est déchirante. Elle se passe aux États-Unis et est rapportée par la docteure vétérinaire Holly Cheever. Quand elle a été diplômée de l'école de médecine vétérinaire, elle est allée dans une ferme laitière. Elle est devenue une praticienne très populaire à cause de son traitement en douceur des vaches laitières. Un de ses clients l'a appelée un jour avec un mystère étonnant. Sa vache suisse brune, après avoir vêlé de son cinquième veau, comme d'habitude, dans les pâturages, après avoir ramené son nouveau-né à la grange, comme d'habitude, après avoir été mise dans la ligne de traite, comme d'habitude, et après qu'on lui ait retiré son veau une fois de plus, comme d'habitude, ses pies étaient cependant complètement vides. Et ils le restèrent pendant plusieurs jours. En tant que nouvelle mère, elle devait normalement produire près de 50 litres de lait par jour. Et pourtant, malgré le fait qu'elle était rayonnante de santé, ses pies restaient vides. Elle est retournée au pâturage chaque matin après la première traite, est revenue pour la traite du soir et a encore une fois été laissée en pâture pour la nuit. C'était l'époque où les bovins étaient autorisés à un minimum de comportement naturel dans leur vie. Mais jamais ses pies n'ont été gonflées par les quantités de lait qui sont la caractéristique d'une vache qui a récemment vêlé. La vétérinaire a donc été appelée pour ausculter cette vache mystère deux fois au cours de la première semaine après son accouchement et n'a trouvé aucune solution à ce casse-tête. Enfin, après le 11e jour, le fermier l'a appelée avec la solution. Il avait suivi la vache au pâturage après sa traite du matin et avait découvert la cause. Elle avait en fait accouché de jumeaux. Cette vache avait fait le choix de Sophie. Elle avait amené un de ses veaux à l'agriculteur et en avait gardé un caché dans les bois, au bord de son pâturage, de sorte que chaque jour et chaque nuit, elle est restée avec son petit. C'était pour elle la première fois qu'elle était en mesure de nourrir son veau. Bien que la vétérinaire ait plaidé auprès de l'agriculteur de les laisser elle et son taurillon ensemble, la vache a tout de même perdu ce petit. Le fermier l'a placé en case et il y est resté jusqu'à s'en emmener à l'abattoir. Ce triste récit nous met face au sentiment et à l'intelligence d'une vache, et entre parenthèses, à ceux des humains. Pensez un instant au raisonnement complexe de cette mère. Premièrement, elle avait la mémoire de ses quatre déchirements précédents. Quand elle amenait son veau nouveau-né à la grange, ça signifiait ne plus jamais le revoir. Un crève-cœur pour n'importe quelle mère mammifère. Deuxièmement, elle a imaginé et exécuté un plan. Si amener un veau à l'agriculteur voulait dire qu'elle le perdait inévitablement, alors elle garderait son veau caché dans les bois. Et troisièmement, au lieu de cacher les deux à la fois, ce qui aurait éveillé les soupçons de l'agriculteur, elle en a ramené un et gardé l'autre. On sous-estime toujours l'univers mental et affectif des animaux. Et pour pouvoir les considérer finalement comme des machines, pour pouvoir les entasser toujours plus dans des conditions sordides, pour pouvoir les mettre à mort, pour ne pas hurler devant les rayons où les morceaux de leur corps sont exposés. Ça nous est bien utile. Et du coup, c'est une excellente transition pour recevoir Philippe Salé, qui s'est intéressé, peut-être malgré lui au départ, au sort des vaches laitières, puisqu'il fait partie de l'association Novicen, une association qui s'est montée suite à un projet dont il va nous parler. Bonjour Philippe.
Bonjour Brigitte.
Eh bien Philippe, on va parler aujourd'hui d'un grand projet que vous avez pour ce week-end, pour ce dimanche. Une manifestation à Paris qui est en fait la concrétisation finalement d'une lutte qui dure depuis un petit moment maintenant. Alors déjà, pouvez-vous nous présenter l'association Novicen ? D'où est-elle née et pourquoi ?
Bien, Novicen, qui est le résumé de nos villages se soucient de leur environnement, est née du rassemblement des habitants du village de Drucas-le-Plessiel, qui ont découvert, en fait, lors d'une enquête publique, qu'un projet totalement impensable, incroyable, était en train d'être en gestation, on va dire, à l'entrée de leur village. Il s'agissait donc, en fait, de mettre en place une ferme laitière, hélas, comme ce que vous avez décrit, une ferme où les animaux sont en batterie, mais surtout d'une dimension considérable, la plus grande ferme de France, c'est-à-dire 1000 vaches laitières en position donc de produire du lait, mais aussi avec 750 génisses. Donc ça, c'est déjà quelque chose de démesuré. Les bâtiments, ces trois terrains de football alignés, pour donner une idée visuelle. Et puis, le clou, c'était qu'à côté, il y a un méthaniseur, mais un méthaniseur d'une capacité importante, pratiquement à 1,5 MW, ce qui n'existe quasiment pas encore en France. Et lui, encore plus près des habitations, à 500 mètres du village. Donc un projet démentiel, et non pas aux mains des agriculteurs, mais dans la mis en place, disons, par un promoteur du bâtiment public, qui est Michel Ramery, qui a voulu un petit peu créer ce méthaniseur et en fait utiliser cette ferme laitière pour que son méthaniseur s'intitule agricole, ce qui ne sera pas en réalité. Mmh. Les habitants se sont regroupés. Les habitants ont fait des pétitions, il y a eu une réunion publique, et puis très vite, on a vu émerger un groupe, des gens, des centaines de personnes, dont plusieurs ont été représentants, et qui ont créé donc cette association en novembre 2011, donc il y a déjà plus de 18 mois, et donc une rencontre des habitants autour d'un projet comme ça, qui a tout de suite canalisé toutes les oppositions. Et donc une association s'est mise en place et très vite, nous avons eu en un mois de temps 1000 adhérents. Et très vite aujourd'hui, nous avons continué à grossir. Aujourd'hui, nous sommes 1850 adhérents.
Donc. Une sacrée aventure, mais est-ce que vous étiez destiné, parce que là aujourd'hui, ben, vous êtes carrément militant, la manifestation qui aura lieu donc dimanche à Paris, qui démarre à 13h à la gare Montparnasse et qui descendra devant le salon de l'agriculture, c'est pas un coup d'essai pour vous, puisque c'est la troisième manifestation que vous organisez.
Voilà, il est clair que nous avons découvert une nouvelle activité, qui est celle d'organiser. Nous sommes tous ou retraités ou en activité, en tout cas habitants et riverains de ce projet. Et donc on a effectivement animé pas mal de choses, des réunions, des rencontres, mais aussi on a rassemblé tous les opposants lors de manifestations. Et on y va crescendo, puisque la première manifestation, c'était juste il y a un an à Abbeville, où nous étions environ 800 personnes, déjà dans les rues à exprimer notre désapprobation contre un tel projet. Et déjà, nous avions rencontré différentes personnes qui nous avaient rejoints, dont vous étiez déjà, puisque la protection animale est évidemment un thème mis en avant dans ce projet, qui est entre autres... nuisances et craintes, c'est aussi bien sûr la santé des habitants, la qualité de l'air, de l'eau, de la terre. C'est aussi bien sûr l'environnement qui est donc un souci important et les nuisances multiples que l'on a autour. Donc tous ces gens sont mobilisés en février. Et puis l'année dernière, alors que la demande était déposée en préfecture, eh bien, le préfet a toujours attendu, alors qu'il remettait de deux mois en deux mois sa décision. Et nous avons fait une nouvelle manifestation au mois de juin, donc le 23 juin à Amiens, cette fois où nous étions 1000 personnes, toujours soutenues par nos soutiens depuis le début, hein, qu'ils soient certains politiques professionnels, mais aussi certaines associations, dont L214, qui était présente avec nous à ces différentes manifestations. Eh bien, ensuite, le projet, nous avons continué à nous battre contre. Et on s'est surtout rendu compte, en se renseignant, que notre projet est certes devenu symbolique et d'une dimension évidemment énorme pour canaliser beaucoup de gens. Eh bien, il nous a permis de rencontrer d'autres personnes et de voir qu'au niveau national, eh bien, des élevages intensifs, ce que nous savions exister, mais en même temps que de nombreux projets devenaient de plus en plus fous, quoi. Donc c'est ce qui se passe à Paris, c'est que c'est un peu un rassemblement avec nos vicennes à la tête de cette manifestation, puisque nous l'avons lancée, organisée. Mais nous avons voulu rassembler, puisque c'est le salon de l'agriculture, toutes les associations, toutes les personnes qui ont des projets identiques, que ce soit notamment pour d'autres animaux. On sait bien les élevages de porcs, les élevages d'avières, etc., que nous puissions nous rassembler pour exprimer notre désapprobation contre l'élevage intensif industriel dont on connaît les diverses dérives, outre la condition animale que vous venez d'exprimer, qui est bafouée. Il y a bien sûr la qualité alimentaire qui mobilise aussi les gens, puisque ces animaux sont traités parfois de façon préventive par des antibiotiques, sont alimentés de façon industrielle par un produit dont on ne sait pas l'origine toujours. Et puis, vont être soumis à un stress, n'auront pas de mobilité comme quand ils sont en pâture. Enfin, tous ces problèmes créent bien sûr une alimentation de moins bonne qualité.
Oui, c'est clair que pour les animaux, l'élevage industriel, enfin déjà l'élevage traditionnel, il y a bien des problèmes. Hein. L'histoire que j'ai racontée, effectivement, c'est une vache qui pouvait aller en pâture et à qui on retirait son veau, puisque pour faire du lait, une vache, on lui fait faire un veau de façon à ce qu'elle produise du lait. Hein, c'est un mammifère, donc comme n'importe quel mammifère, il faut qu'elle ait mis bas pour avoir du lait. Et ce problème, dans les élevages industriels, il est multiplié par 1000. Et en plus, effectivement, les vaches, là, dans le cadre du projet Ramery en Picardie, les vaches n'ont aucun accès à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué dans ce projet, c'est-à-dire que le ministère de l'écologie, je crois, a donné son aval. Il y a un arrêté qui a été publié, une décision préfectorale, qui est d'autoriser la ferme pour 500 vaches laitières avec voilà. Un méthaniseur. Et ça vous satisfait toujours pas ?
En réalité, non. Si vous voulez, on a eu initialement un sentiment de réduction. C'est vrai que le promoteur avait dit 500 vaches, ça ne m'intéresse pas, car ce ne sera pas rentable. Lui, évidemment, son seul intérêt, son seul point de vue, c'est de faire du profit, du bénéfice. C'est un entrepreneur. Certes, nous le comprenons, mais néanmoins, à travers cette décision qui nous est arrivée de façon surprenante début février, où le préfet a effectivement pris un arrêté autorisant 500 vaches, au prétexte que le promoteur ne dispose actuellement d'une surface d'épandage pour son méthaniseur que de 50% par rapport aux capacités. Donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on lui restreint de moitié son projet. Mais le lendemain même de cette autorisation, il a immédiatement relancé notre campagne puisqu'il a dit clairement « Je me mets en situation de trouver de l'épandage suffisamment et je vais augmenter progressivement » pour atteindre les 1000 vaches. En fait, le projet tel qu'il est reste le même, sauf que malheureusement, cette autorisation, et là c'est un peu la critique que nous formulons envers les décideurs, eh bien cette autorisation lui donne la porte ouverte pour construire, pour créer. Il ne va pas construire une ferme pour 500, mais pour 1000, puisqu'il a bien l'intention d'avoir 1000 vaches. Et son méthaniseur, il reste d'une dimension quasi identique au projet initial. Donc, son projet reste toujours le même. Donc à terme, les nuisances sont identiques. Alors qu'en France, les méthaniseurs, pour parler de cela, si c'est une excellente idée et contre laquelle nous ne sommes absolument pas, il faut savoir que la majorité sont vraiment agricoles, mais qu'ils ont une capacité beaucoup moins importante. La moyenne est de 0,4 mégawatts. C'est la production d'électricité qui peut être faite. Or là, le nôtre serait de 1,5 mégawatts. Surtout à 500 mètres des habitations, avec un projet où il est écrit que les risques cancérigènes sont acceptables, que l'on sait que certains méthaniseurs ont déjà explosé, puisqu'il y a quand même des émanations de gaz, d'H2S, etc., et qu'il y a de réels risques pour la population, l'environnement et nombreuses dérives possibles. Donc c'est un peu important.
Oui, c'est un peu important. C'est du coup une belle mobilisation que vous avez réussi à faire pour la manifestation de dimanche. Donc, comme vous l'avez dit, c'est allé crescendo, c'est-à-dire que ça a commencé à Abbeville, sur le chef-lieu de là où avait lieu le projet, enfin la ville juste à côté où il y avait la sous-préfecture, et puis Amiens, maintenant Paris. Au jour d'aujourd'hui, il y a une quarantaine d'associations, syndicats, partis politiques qui affichent un soutien et qui disent qu'ils seront présents à la manifestation. On peut s'attendre à une manifestation d'une ampleur assez grande. Je pense que les 1000 personnes, on va largement les dépasser cette fois-ci.
Bah oui, c'est tout notre objectif et notre souhait. C'est vrai qu'on a des gens qui viennent de partout, hein, vous le savez, puisque vous êtes aussi partenaire et présente, bien sûr, dans cette manifestation, et que nous allons espérer avoir effectivement le plus grand nombre possible de présents. Et puis notre manifestation, elle terminera son parcours au Salon de l'Agriculture, car nous voulons surtout exprimer le fait que nous sommes pour garder des agriculteurs et des éleveurs et des paysans qui soient proches et attachés à la terre, à leur métier, parce que nous en avons besoin, bien sûr, que nous voulons aussi une qualité alimentaire qui est bien soulignée dans tout ce qu'on entend aujourd'hui avec les problèmes réguliers qui sont mis en avant. Sur le suivi des produits industriels, on voit les dérives et les risques éventuels. Or là, avec des projets de ce genre-là, malheureusement, tous les petits éleveurs, tous les petits producteurs vont être amenés à disparaître. Ils n'arriveront jamais à être compétitifs sur le prix du lait. Et donc, très rapidement, ces gros projets vont avaler les autres petits éleveurs du coin. Et cette expérimentation, on va dire, parce que c'est quand même une situation inédite d'une telle ferme de 1000 vaches en France, si elle est validée par les pouvoirs publics, eh bien, malheureusement, elle se reproduira à d'autres endroits et petit à petit, l'élevage se résumera. Comme le disait José Bové, qui est venu nous rendre visite et qui est d'ailleurs adhérent à notre association, eh bien, il n'y aura plus que quelques fermes comme ça, gigantesques, qui malheureusement produiront un lait uniquement industriel. Et donc, quand on entend des gens dire on ne peut pas produire de fromage avec un lait de ce type-là, le lait n'a plus le goût de l'herbe et des vaches élevées en pâture, on sait qu'on va perdre quelque chose et on aimerait que nos consommateurs, nous tous qui le sommes, et nous sachions bien sûr nous mobiliser contre de tels projets, parce que sinon c'est une dérive qui va s'instaurer dans le temps.
Oui, alors là où vous avez fait fort quand même, c'est d'avoir réussi à fédérer autour de vous des associations dont les objectifs sont pas forcément les mêmes. Par exemple, l'exemple que je connais bien, c'est notre association L214. Nous, on s'est inscrit dans cette manifestation par rapport à la question animale que pour nous, la solution n'est pas sur un élevage plus petit, par exemple, bien qu'on pense que c'est largement moins pire pour les animaux. Mais vous avez réussi à nous intégrer dans votre combat. On a réussi à s'entendre les uns avec les autres sur cette mobilisation qui est vraiment contre l'élevage industriel et à chacun quand même continuer de porter notre message. Donc sur l'élevage industriel, on est d'accord. Et c'est vrai que sur la finalité pour arriver à des petits élevages, etc., pour nous, ce sera pas la finalité. Une fois qu'on en sera à des petits élevages, nous, on continuera d'argumenter sur la sensibilité des animaux et bien le sûr. Fait que, est-ce que notre société pourrait pas se poser la question de ne plus considérer les animaux juste comme des machines à produire pour nous? Et ça, c'est clair que ça pourra se faire dans un monde où on se préoccupera vraiment de ce que vivent les animaux, donc de bien-être animal, et sur des structures plus petites, ce sera sans doute possible. Mais si on en arrive à une ère complètement industrielle, comme c'est un petit peu le cas, parce que là, voilà, on a parlé du projet des 1000 vaches, la ferme de Monsieur Ramry, mais appelle aussi à la manifestation l'association qui lutte actuellement contre l'implantation d'une porcherie industrielle dans le village de Öhringen, dans le Pas-de-Calais.
Oui.
Voilà, et aussi montrons dans le car qui viendra de Lyon des personnes qui luttent contre l'extension d'un poulailler industriel, donc qui produit des œufs à tord-larigot. Hein, pour l'instant, ils ont 200 000 poules pondeuses et c'est un projet d'extension à 400 000 poules pondeuses qui seraient gardées dans des cages pendant leur année de ponte avant d'être menées à l'abattoir. Donc voilà, essayer d'endiguer, en tout cas de poser des limites à ce qui est permis de faire aux animaux. Là, on est dans une société qui va vers de plus en plus d'industrialisation. Et c'est ici aussi que, en tant qu'association de protection animale abolitionniste, on a vu un danger vraiment important à ce que ce genre de projet se réalise dans une chosification de plus en plus forcenée de ce que sont les animaux. Les vaches considérées vraiment comme des machines à faire du lait. Et ça nous était vraiment... ça nous semblait vraiment important de nous mobiliser avec d'autres associations, même si nous ne poursuivions pas le même but final largement, enfin, peu importe. Là, justement, il va y avoir tout un tas d'associations entre, effectivement, entre la Confédération Paysanne, avec la LPO, avec... Oui. Vraiment, il y a une diversité dans les associations que vous avez réussi à réunir,
ah oui, c'est sûr,
qui est sans précédent, à mon avis, dans la lutte contre un tel projet, contre de tels projets, puisque on s'étend au-delà des 1000 vaches, et c'est ce qui était bien intéressant.
Ah oui, c'est pas joli, tout ce que je dis.
On s'aperçoit
tout ce que je dédie ma vie, mes mots, pour mes amis, les animaux. Mon défi, changez vos avis. Mon pseudo, le slammer bio, du 100% végétal, pour chaque animal à sauver du mal. Et si ça te choque, le steak de cheval, le chien chinois, le saucisson d'âne, devient cohérent à 100%. Végétarien, bien tolérant, ce n'est pas rien, vraiment vital. Respecte un brin de vie animale. Les biens, puissance, conditionnement, je comprends que les gens aient besoin de temps. Je reste indulgent, sans faire semblant, ça me semble urgent, si tu comprends. Que le maximum de végétal, c'est optimal. C'est le minimum du gastronome, beaucoup plus drôle. La cuisine donne sans animaux ou dans la casserole. Un vrai cadeau, c'est qu'elle est bonne. Un goût fatal, ça t'étonne. Y'a pas de tendresse dans tendresse ton. Plus rigolo que le jambonneau, t'accroche pas trop. Il faut que tu te risques, c'est du délice, c'est évolutif. L'idée s'immisce, c'est exclusif, alternatif. Oublie bien vite les artifices, sois positif. Combien de mais, je te promets. Y'a aucun mais, ça te fera de l'effet. Y'a aucun hic, pure stratégie gastronomique. Plus hygiénique, économique et pacifique. Authentique, tactique, écologique. Tic-tac-tic, apocalyptique. Acte politique énergique face au défi que cette mécanique capitaliste pensée unique, inéconique. S'il existe l'éthique antispéciste, mais te laisse sceptique, persiste, résiste à esquiver.
Ça reste relatif, c'est la chaîne trophique fatidique.
Et d'un syllogisme tu ris, mais cette tuerie est une ineptie. Barbarie-t-elle aussi si illogique, simple inertie psychologique. L'argument des carences, sans jalrance. Renseigne-toi, mais ne saigne pas qui que ce soit pour ça. Parcours, errance, par cohérence. Largue l'argument de l'instinct carnivore. Car c'est un arc qui ment, qui nie le vivant. Un archétype de type archaïque. Mange végétalien, ça te fera du bien. Et à combien directement, tous gagnants, aucun perdant. C'est éloquent, soit évident, soit bienveillant. Je le répète, c'est cohérent à 100% pour la planète, pour les espèces. Même dans ta tête, ce sera plus net. Univers l'uni, l'univers fait, tu t'opises, qu'elle est chouette. L'humanité unie d'amitié pour l'animalité. Ne nie plus l'animal, ni moins le subliminal. Si s'humaniser, c'est s'immuniser de la pitié. L'humanité m'a quitté à nier la sensibilité de toute entité animale, à nier le mal, à nier l'entier, anéanti sa dignité. Est-ce une impasse perverse ou un pas vers cette sagesse, un passage vers la noblesse? Ce que je confesse, c'est que j'essaye de laisser ce stress qui m'affecte accepter ce désastre des êtres en détresse. Est-ce bien nécessaire, ce mal qui blesse? God bless you. Too much. Si l'homme est un dieu, il n'a pas Dieu. Est-ce le prix de l'esprit? Alors je prie pour que cesse ce sacrifice qui crie le vice.
C'était donc du slam bio 100% végétal, offert par Veganesh et Jean-Jean. C'est un album que vous pouvez trouver par exemple dans la boutique en ligne de L214 et sur le site de Veganesh. Voilà, on reprend notre conversation tout à fait en rapport avec ce slam bio 100% végétal sur les vaches laitières et sur ce projet démesuré des 1000 vaches en Picardie que la population locale tente d'arrêter depuis 18 mois. Et pour l'instant, ils y sont parvenus. La première pierre de cet horrible édifice n'est toujours pas posée. Et Philippe va nous raconter une petite anecdote sur laquelle ils sont tombés avec Novicène.
Oui, en fait, par hasard, une affiche a été retrouvée qui remonte à une cinquantaine d'années, où l'on voyait les vaches, en fait, qui elles-mêmes défilaient. C'est bien sûr un dessin caricatural, mais en même temps, les vaches défilaient avec des slogans affichés en disant qu'elles demandaient de mettre un terme halte à la folie humaine. Donc, ce n'était pas les vaches folles, c'était l'homme qui était fou, car à l'époque, déjà, on se mobilisait contre l'élevage intensif. C'est une image, mais ça montre que ce combat, il est de tout temps et que là, comme vous le disiez tout à l'heure, on regroupe tellement d'associations différentes parfois dans leur essence, mais on les regroupe parce que ce projet devient tellement monstrueux, caricatural, comme tous ceux dont vous avez parlé, que les gens se disent, mais attention, on a quand même, que faisons-nous? Nous, humains, qui avons des lois pour protéger les animaux, comment se fait-il que nous acceptions des situations comme celles qui vont être d'une vache qui va être mise dans 6 mètres carrés sur du béton et qui n'aura comme seul destin que de se voir retirer son veau, produire du lait et dès qu'elle ne sera plus rentable, de directement partir à l'abattoir. Donc c'est voilà le cas de tous les élevages industriels où on voit des incendies, des épidémies, où on voit des drames qui font ensuite évacuer tous ces animaux comme ce ne sont plus des êtres vivants quand ces gens mettent en place ces projets-là. Je crois que là où on a un cœur, un cerveau et un corps et qu'on a envie un peu de se préoccuper de ce qui se passe, on ne peut pas être favorable à cela et je crois que ça explique que les gens sont mobilisés contre ce projet et qu'ils seront tous, bien sûr, présents avec nous dimanche 3 mars à 13h30 à Montparnasse, à Paris, donc pour défiler pendant une petite heure vers le Salon de l'agriculture où on aura beaucoup d'échanges et notamment de nombreuses associations dont vous avez parlé qui raconteront leurs problèmes avec les différents projets en cours, ces projets d'élevage industriel, mais aussi tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, bien sûr Picardie Nature et France Nature Environnement, mais aussi certains partis qui ont été avec nous depuis le début, notamment les écologistes, Europe Écologie Les Verts, qui ont toujours déclaré que ce projet était totalement nuisible, bien qu'il ait des caractéristiques environnementales avec le méthaniseur, mais à cette dimension-là, c'est l'inverse qui se produit, c'est plus nuisible que bénéfique. Et donc nous espérons, on parlait de José Bové, que l'Europe et le Parlement européen, que à cet échelon, puisqu'on est déjà allé à Bruxelles manifester également, que de cet endroit-là, on nous donne des lois qui uniformisent les lois, enfin les règles de fonctionnement pour ce genre de projet et qui ne permettent pas de faire n'importe quoi et à cette dimension-là qui redonne justement une place à la qualité de vie, à la qualité alimentaire que l'on veut à tout prix garder. Et puis dans la série anecdote, oui, j'avais vu que lors de la cérémonie des Césars, eh bien, le film Bovine était nominé. Mm-hmm. C'est vrai que nous l'avions passé à Abbeville également pour le découvrir, ce documentaire où on voit les vaches vivre leur vie normalement dans les prairies. Il n'y a pas un mot, il n'y a que des images d'animaux qui sont tendres, qui expriment leurs sentiments justement et et qui refont un peu mettre les choses à leur place par rapport à ce genre de projet contre lequel on se bat.
Oui, sur le film Bovine, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était effectivement, c'est un très beau film qui montre les vaches, etc. Sauf que c'est vrai que le film s'arrêtait au moment où l'animal était chargé dans la bétaillère et l'étape suivante n'était pas montrée. Donc, effectivement, des vaches dans un pré où on peut penser qu'elles sont plutôt dans des bonnes conditions, c'est vrai qu'on élude souvent, et dans le film Bovine, c'est ce qui a manqué finalement, c'était l'étape entre guillemets finale, le départ à l'abattoir et puis tout ce qui se passe encore après qui est une véritable épreuve pour les animaux avant cette fâcheuse conclusion.
Malheureusement, oui, il y a d'autres films qui montrent la réalité de ce qu'elles vivent et ce pourquoi on se bat, bien sûr.
Voilà, oui. Actuellement, il y a au Festival de l'Environnement à Paris un film qui passe qui s'appelle La main au-dessus du niveau du cœur. C'est un documentaire de Gaël Comard et qui a posé ses caméras dans les abattoirs. Alors, elle s'est intéressée, elle, plus particulièrement à ce que vivent les ouvriers d'abattoirs. Mais néanmoins, leur matière première, entre guillemets, ce sont les animaux et c'est tout à fait palpable le stress, la terreur aussi qu'ils peuvent ressentir dans des lieux comme celui-ci, quoi.
Tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit des figures emblématiques qui se sont mobilisées contre ce projet, notamment, on a également Yann Arthus-Bertrand, que nous avons eu comme soutien, puisqu'il a lui-même écrit au préfet de Picardie, en lui demandant clairement de ne pas autoriser ce projet, pour les raisons multiples qu'on a évoquées. Parce que nous sommes à Abbeville, à quelques kilomètres de la baie de Somme. La baie de Somme, c'est un espace naturel protégé, qui est justement classé, c'est une des plus belles baies du monde, et notre projet est exactement à proximité de cette baie de Somme, à quelques kilomètres. Et donc forcément qu'une telle nuisance dans ce projet, avec tout ce qui est regroupé là, peut entraîner une infiltration des nappes phréatiques, peut entraîner des pollutions de l'air et des sols, avec l'épandage multiple. Enfin, il y a des risques tout de même, on l'a bien vu en Bretagne, pour ce type d'élevage, et nous sommes soucieux aussi de préserver notre site classé aussi pour cet aspect-là.
Ouais, Yann Arthus-Bertrand est vraiment sensible. D'une part, il est photographe, donc effectivement, la préservation des milieux naturels, le pouvoir faire des, entre guillemets, des belles photos, ça l'intéresse toujours. Et il est très, très sensible aussi à la question animale. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, il a été opposant aussi à ce projet et a rejoint l'équipe des contestataires.
Et oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est vrai qu'au niveau gouvernemental, donc, au niveau de la majorité aujourd'hui, donc Europe Écologie Les Verts, depuis le début, a été à nos côtés et largement présent pour nous défendre. Notamment Barbara Pompili, qui est aujourd'hui devenue députée de la Somme, était à nos côtés quand José Bové était venu. Nous avons aussi le Front de Gauche qui a été mobilisé depuis le début. Et d'ailleurs, lors de notre manifestation, nous aurons sûrement la participation de José Bové et en tout cas de Patrick Le Yarrick, qui a déjà fait des articles clairement pour exprimer le point de vue du Front de Gauche contre ce projet. Et je vous avoue qu'on est un petit peu gêné, on ne comprend pas non plus comment un gouvernement socialiste peut à ce point soutenir un projet qui n'a comme seul intérêt à nos yeux que de servir, le promoteur, que d'être un profit pour le promoteur, car on se demande toujours, tous les habitants de la région, en quoi ce projet a des avantages, et ce qu'il a de bon, et quels sont les intérêts qu'il représente pour nous. On ne voit aucun intérêt pour nous, habitants, à proximité de ce projet, comme tous ceux qui sont malheureusement dans des cas similaires avec des élevages industriels. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. On ne comprend pas très bien, alors que les nuisances, malheureusement, elles sont flagrantes, évidentes et multiples. Bien sûr, à commencer par la condition animale, c'est ce qui m'a d'emblée, moi, choqué d'emblée dans le projet. Mais donc, on ne comprend pas. Alors, pourquoi favoriser ainsi un promoteur qui, aujourd'hui, a les moyens d'acheter toutes les terres agricoles qui, malheureusement, sont à vendre, car la situation des éleveurs et des agriculteurs n'est pas simple, n'est pas facile. Et je sais que Malheureusement, on est en train de truster tout ça aux mains de quelques-uns et qui ont les moyens de racheter. Donc, on fait tout pour favoriser cette agriculture industrielle et à l'inverse de ce que les gens veulent et de ce que les producteurs, bien sûr, souhaitent.
Mmh. En effet. Alors, on y revient dans un instant.
Voilà.
Je m'émeus, pas qu'un peu, de ces meux. Ça me touche, je m'attache à la vache. Cette copine a sa mine qui rumine. Car pour la vache qui rit, trop de vaches pleurent, trop de vaches rient. Ça fait peur, pas gentil. Le bobo des bovins, c'est pas beau. Le bébé veau sans maman, eh bien buvons. Ce verre de lait, cette vérité, doit pas gâcher plaisir de yoplait, ça te déplaît, c'est pas le top. Si dans ton yop je crache par ma tchatche, qu'il faut que tu saches de la vache tout ce qu'on te cache, faut pas que ça te fâche, mais ce matin je te rabâche. Les mots du lait, je fais le mausolée, au lait, en parole, pas drôle, je suis désolé, au lait. Pas de vache espagnole, pour m'exprimer, je suis pas muselé, pour t'accuser sans m'excuser, pour t'amuser. Car s'il a l'air vivant, si t'as l'air vivant, et même sans allergie, au lait réagit, allez réagit. Si t'as l'énergie, si t'as les nerfs, que ça t'énerve l'inertie, je te dis merci. Parce que le vaut bien, c'est pas l'Oréal. L'horreur est réelle, et l'ORL est d'accord aussi. Mais le café au lait, malgré les dégâts que ça fait, c'est sacré et c'est ancré. Et ce que ça crée comme résistance, c'est fou, tu mens, ce coup que tu me lances. La coutumance des papilles t'éparpille, tes papilles ont envolé ta volonté. Pas facile d'évoluer sur le lait. Ce que je sais, c'est que j'essaie. Pour intégrer ces vérités, pas d'excès de ces vérités. Pour te sevrer, mon grand bébé, c'est comme les vrais, faut y goûter. Si je gourde yogourt, s'il est gourmet, y'a urgence, y'a urchange, c'est une chance. L'alternative végétale, ce qu'elle est géniale, c'est l'astuce, si t'as ce truc. Contre l'attraction de la tradition, très tradition, fais attention. Si j'énumère tout le rayon, tu t'y perds au super. T'es très crème fraîche, t'aimes les mentales fatales et le camembert, ça t'aime cette canne. Pas d'escalade de clash quand tu acclames ton fromage, que tu le mâches. Je reste calme comme tu t'esclaves de ce slam quand je m'esclame de l'élevage, du lait de vache. Délaisse le lait sans délai, délaisse lait de Nestlé, de l'esclavage. Et si c'était clavage, sois pas lâche. C'est plus l'époque des cow-boys. Boycottez le produit laitier si vous l'étiez coincé dans un box. Anémie de fer du mammifère, c'est troublant. C'est volontaire, ce qu'on doit taire, c'est accablant. La mode alimentaire du veau blanc. Plus rentable sur le marché, plus capable de marcher. Pas question de voir un pré, ni de loin. Je suis témoin, les moins que rien. Les pathologies à gogo, ce pâturage zéro me fout la rage d'un héros contre la vache sans son veau. Oh, lavage de cerveau, faut pas céder, non. C'est des fausses idées, des bovidées. La fausse innocence de cette blancheur, de faux soyeur, le vrai malheur, de faux chez ses vies. Quand l'ignorance sévit, peur de carence sa vie, si l'ordonnance le dit. Si tu savais ce qui est vrai, de la santé ce qu'on en sait, et puis du lait qui est condensé, ce que le lobby nous en dit, lobotomie du calcium, mon bonhomme, ce que je nomme, c'est énorme, car c'est là que tu oses l'indiscrétion, l'indigestion à la lactose, pas seul en cause, dire qu'ils osent, dire qu'ils s'opposent, à l'ostéoporose, c'est pas rose, bif, je me rebiffe, pour qu'on épouse la cause des bouses. Énorme Normande. La norme faut vendre. Engrosser chaque année, ça étonne. En gros, c'est 500 millions de tonnes de lait annuel sur la planète.
c'est lactée, ouais. La voie lactée, la milky, ouais. Car il y pleut du lait comme vache qui pisse. C'est tant pis pour ses filles au défi du débit. S'il y a du pu, qu'elle en peut plus, même elle, de sa mamite, inflammation de ses mamelles, infâme action à la marmite. Il a bon dos, le rendement peu abondant, au bout de 6 ans, amer mérite. Le pot au feu, c'est pas que du bœuf, c'est ma copine, Marguerite. Je m'émeux, pas qu'un peu, de ses meux. Ça me touche, je m'attache à la vache, cette copine à sa mine qui rumine.
Alors, c'était encore Veganesh avec son slam 100% bio végétal, donc vous pouvez retrouver sur le site de L214 dans la boutique en ligne éventuellement et à l'écoute sur le site de Veganesh lui-même. Alors Philippe, donc on est devant la dernière ligne droite avant la manifestation de dimanche. Vous aviez une réunion hier soir où vous avez peaufiné les derniers détails. Donc on peut rappeler aux auditeurs, on peut les appeler à venir nombreux, hein, puisqu'on est sur une radio qui émet notamment sur la région parisienne, mais aussi sur Internet. Donc on peut écouter d'un peu partout en France, mais notamment sur Paris. Le rendez-vous est fixé près de la gare Montparnasse, c'est ça ?
Voilà, le rendez-vous c'est à la gare Montparnasse, sur le boulevard Montparnasse, donc à 13h dimanche 3 mars, c'est-à-dire dimanche prochain. 13h rassemblement, et puis donc nous donnerons les indications pour le positionnement. Je pense qu'on a énormément d'associations, comme on l'a dit, 40 qui se regroupent au niveau national et qui seront présentes. Donc on aura... sans doute déjà des prises de parole qui seront un petit peu organisées, au moins présenter les différents projets qui se sont mobilisés ce jour-là et qui sont là pour être dénoncés par les opposants qui sont avec nous. Et puis nous prendrons ensuite un circuit qui se dirigera vers la porte de Versailles pour rejoindre le Salon de l'agriculture, dont ce sera le dernier jour, avec comme objectif devant le salon de prendre... de faire des prises de parole en essayant d'exprimer le plus de points de vue possible. En tout cas, pour ceux qui nous soutiennent, ce seront bien sûr eux qui nous donneront leur point de vue. Et inversement, et ensuite, bien sûr, nous pourrons contacter les visiteurs du salon, leur distribuer des tracts et puis leur donner toutes les informations possibles et leur demander aussi de signer un moratoire contre ce projet des 1000 vaches de Drucka Le Plessiel.
Oui, notre association L214 a fait demander un sondage auprès de OpinionWay et justement à la question est-ce que les gens seraient favorables ou défavorables à ce projet en Picardie qui donc a l'intention d'enfermer 1000 vaches et 750 veaux et génisses à vie dans un immense élevage, il y a 91% des gens qui se sont prononcés contre. Et quand on a posé la question sur plus généralement l'élevage intensif, c'est-à-dire un élevage qui enfermerait les animaux en bâtiment fermé sans leur laisser d'accès à l'extérieur, donc comme c'est le cas pour la majorité, l'écrasante majorité des animaux aujourd'hui en France, hein, on peut rappeler qu'il y a 80% des poules pondeuses qui sont enfermées en cage de batterie, 80% des poulets de chair qui sont enfermés dans des hangars. Pour les cochons, on monte à 95% des cochons qui n'ont jamais d'accès à l'extérieur. Et puis on voit que la situation évolue pour les vaches, justement, avec des projets tels que celui-là. Et là, c'est 90% des gens qui se sont prononcés contre ce type d'enfermement pour les animaux. Alors on peut pas dire qu'on est vraiment dans une démocratie, puisque théoriquement ça devrait être pris en compte par les pouvoirs publics, et notamment le projet des 1000 vaches aurait dû être stoppé puisque ça a été examiné par les différents ministères. Mais enfin, voilà, on est parti là-dessus. Donc, c'est vrai qu'en aboutissant devant le salon de l'agriculture, on va à la rencontre de personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux animaux, à l'agriculture, à l'élevage tel qu'il est fait aujourd'hui. Mais toujours d'après ce sondage, les gens ne sont absolument pas dupes. C'est-à-dire qu'en posant la question aux gens, est-ce que vous pensez que le salon de l'agriculture permet de se rendre compte fidèlement des conditions d'élevage des animaux, 84% des personnes interrogées ont répondu que non. Donc c'est un sondage OpinionWay fait par un organisme spécialisé pour faire des sondages. C'est un sondage qui a été fait les 20 et 21 février, donc un sondage tout récent, et ça nous donne un petit peu la température en fait de ce que pensent les Français sur un échantillon représentatif de la population de l'élevage tel qu'il est fait aujourd'hui. On se rend compte que ben il y a grosso modo personne qui est attaché au modèle aujourd'hui agricole français, qui est un modèle agricole largement intensif.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'à Abbeville, on avait fait un sondage aussi dans un journal local. 98% de plus de 1000 personnes avaient dit être opposées à ce tel projet. Mmh. Et inversement, une pétition en ligne sur le site d'Avaz avait réuni plus de 35 000, enfin, elle est toujours en cours, plus de 35 000 signatures. Donc on est vraiment totalement mobilisés contre ça de partout. Et les gens sont contre. Et comme vous dites, on a entendu avant l'élection présidentielle parler de démocratie participative chez notre président. Je pense que ça serait là tout à fait l'occasion de lui donner une réalité, de prendre quand même en compte l'opinion, mais écrasant, des gens qui s'expriment. Et comme vous dites, le salon n'est pas du tout l'occasion de se rendre compte. C'est une vitrine qui montre des choses intéressantes et des bons produits souvent, mais qui n'est pas la réalité de la vie. Alors, il faut quand même regarder les choses en face. Donc, ouais. Contre tout ça, pour la qualité de l'alimentation et surtout pour s'opposer à cet élevage intensif qui met encore plus à bas la condition animale et la qualité de notre environnement, eh bien, tous à Paris le 3 mars, donc dimanche, à 13h à la gare Montparnasse.
Voilà, et on peut rappeler que sur votre site internet, novicen.com, on retrouve toutes ces informations, tout ce que vous avez mis en place pour lutter contre ce projet.
Nous avons aussi un compte Twitter et un compte Facebook où nous sommes régulièrement visités par de nombreuses personnes.
Voilà, donc on peut vous rejoindre assez facilement. Et sinon, on peut rappeler, donc il y a des cars qui se sont mis en quart du coup au départ d'Abbeville, avec un ramassage à Amiens.
Voilà,
et puis on a un car au départ de Lyon, on a un départ, alors au départ de Lyon, qui fait escale, qui prend des gens à Chalon-sur-Saône, à Beaune et à Auxerre. On a un car qui part de l'ouest de Saint-Brieuc et qui fait une étape à Rennes aussi. Et puis, quelques billets de train qui ont été pris au départ de Strasbourg aussi. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver donc sur novicen.com et puis sur le site de l'association L214, donc sur L214.com.
Très bien.
Voilà. Et puis, parlons concrètement maintenant du sort de ces vaches laitières. Alors, celles que Monsieur Ramry projette d'enfermer, bien sûr, dans cet élevage de 1000 vaches, mais aussi toutes les autres, puisque actuellement, sur les produits laitiers, on a quand même des grosses campagnes de publicité qui nous incitent à consommer des produits laitiers sans modération, 3 produits laitiers par jour, etc. Mais on nous pousse à consommer des produits laitiers sans argument finalement nutritionnel derrière. Hein. On peut rappeler que les taux d'ostéoporose sont plus importants dans les pays où on boit beaucoup de lait de vache que dans les pays où on en boit très très peu. Ça, c'est juste pour souligner le fait que les produits laitiers ne sont absolument pas nécessaires pour rester en bonne santé. Et maintenant, on peut s'intéresser au sort des vaches qu'on voit comme paisibles, douces, et souvent, on se les représente dans des pâturages idylliques. Mais l'élevage laitier est-il si inoffensif? En fait, pour que les vaches laitières aient du lait, il faut évidemment leur faire naître chaque année, à peu près un an et demi, un veau, ce qui stimule leur production de lait. Elles sont donc inséminées artificiellement de façon à donner naissance à ces veaux. Dans quasiment tous les élevages laitiers, le veau est séparé de sa mère à la naissance ou dans les 24 heures. Ils ne se reverront jamais. Vous avez pu le voir notamment dans le reportage « Adieu vos vaches cochons couvées » qui est passé au mois de juin sur France 2 et qu'on peut encore voir sur Internet. Cette scène justement de séparation, donc une vache qui est au pré avec son veau qui vient de naître et l'éleveur qui vient d'une façon tout à fait douce retirer le veau à sa mère. Et on se rend compte que même si c'est fait sans frapper le veau, sans frapper la vache, sans intention une intention cruelle derrière, on se rend bien compte que aussi bien pour la vache que pour le veau, c'est un véritable déchirement. Parce qu'en fait, leur relation est très forte dès la naissance du veau et pourrait durer de longues années. Après cette séparation, beaucoup se cherchent entre la vache et le veau et meuglent pendant des heures, voire des jours. Il y a des vaches qui ont parcouru des dizaines de kilomètres pour retrouver leur petit. C'est arrivé, il y a plusieurs anecdotes qui sont racontées, notamment on peut les retrouver évidemment sur Internet, mais aussi dans des livres qui traitent justement d'éthologie, de relations entre les animaux, et des vaches qui ont réussi à retrouver, malgré une grande distance, leur veau, et les agriculteurs les ont retrouvés au petit matin, le petit en train de téter, alors que ben voilà, elles ont défoncé les clôtures, elles ont parcouru des kilomètres juste pour ça. Ça prouve à quel point il y a un attachement très fort qui peut exister entre les animaux dès les premières heures de la vie. Ces veaux, séparés de leur mère, donc passent les 8 premières semaines de leur vie seuls dans des cases individuelles, souvent à peine plus grandes qu'eux, et parfois sans litière. Ils sont nourris au lait entier, au lait en poudre reconstitué, et aussi prennent des aliments composés. Des dizaines de milliers de veaux sont aussi transportés chaque année à travers l'Europe, pendant des trajets très longs qui peuvent dépasser 24 heures. Par exemple, des veaux nés en Irlande qui seront engraissés en Hollande ou en Espagne. C'est souvent quand vous allez notamment du côté de Caen que vous pouvez suivre des transporteurs qui arrivent justement par Cherbourg de l'Irlande avec des camions qui sont chargés de veaux très jeunes et qui vont donc être transportés pendant des heures de façon à arriver dans les fermes où on va les engraisser. Ces veaux sont généralement élevés en batterie. Et ils sont volontairement anémiés pour que leur chair soit claire, afin de répondre aux habitudes des consommateurs. Évidemment, c'est de la viande entre guillemets blanche. Le minimum légal d'apport en fer dans leur alimentation est en effet en dessous des recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. Donc on voit bien que leurs besoins, finalement, sont totalement négligés pour les envies des consommateurs, comme c'est le cas par exemple pour les porcs, si on fait un rapprochement, pour le goût du consommateur, les jeunes porcelets sont castrés à vif, les porcelets mâles sont castrés à vif, de façon à ce qu'ils ne développent pas l'odeur de verra qui incommoderait éventuellement les consommateurs. Ces veaux, donc issus de l'industrie laitière, sont abattus avant leurs 2 ans pour la viande. La plupart ne verront jamais un pâturage. Le destin des veaux femelles est le plus souvent celui de leur mère. Les autres sont engraissés et abattus comme les mâles. On va parler maintenant vraiment des vaches laitières. En fait, les vaches laitières produisent aujourd'hui à peu près 8400 litres de lait par an, soit 3 fois plus qu'en 1950. C'est le même phénomène qui touche par exemple les poulets de chair qu'on fait grossir en 42 jours au lieu de 80, les poules pondeuses qui au lieu de pondre 60 œufs à peu près par an en pondent aujourd'hui 300. Et un fait marquant aussi, c'est que même pendant leur grossesse, puisque chaque année à peu près il leur naît un veau, pendant leur grossesse elles continuent à être traites. Elles sont donc simultanément exploitées pour leur lait et pour leur veau. Un scientifique, John Webster, estime que cet effort épuisant fourni quotidiennement par leur organisme reviendrait pour un être humain à l'énergie dépensée par une course folle de 6 à 8 heures par jour. Poussées à l'hyperproductivité, beaucoup de vaches souffrent de maux douloureux. Les mammites, ces infections d'épis et les boiteries sont très courantes dans les élevages laitiers, tout comme les troubles métaboliques et de la fertilité. Les vaches ont souvent un accès limité à l'extérieur et les élevages en bâtiment clos, le zéro pâturage, se développent, favorisant d'ailleurs les boiteries sévères. L'élevage de Monsieur Ramery en Picardie serait tout à fait un élevage de ce type-là, avec les problèmes de bien-être animal que ce serait qui se grefferait dessus. Sur ces vaches laitières, Souvent, bah, si vous regardez dans les prés, etc., elles n'ont plus de cornes, parce qu'on utilise dans les élevages ce qu'ils appellent les cornadis, de façon à les bloquer quand elles mangent. Et donc, pour éviter qu'elles se blessent, en fait, on les écorne quand elles sont petites. C'est une opération qui est reconnue comme douloureuse, mais qui est effectuée pourtant sans anesthésie. Bien entendu, je ne vais pas vous faire l'impasse sur la fin de la vie de ces vaches laitières. Ces vaches laitières, elles sont ensuite emmenées à l'abattoir et abattues avec ou sans étourdissement pour être ensuite vendues sous la forme de steak haché le plus souvent, puisque ce sont des vaches de réforme. C'est tout ce qui est appellation bœuf. Il y en a pour à peu près 50% de la viande que vous mangez. Ce qui nous permet de rebondir, quelle jolie transition, sur l'article paru aujourd'hui dans Le Monde. Un article écrit par Fabrice Nicolino qui revient sur l'affaire Findus. L'affaire Findus où les gens pensaient manger de la viande de bœuf et ont été absolument outrés d'apprendre que, mais non, ce n'était pas du bœuf, c'était du cheval. Alors pourquoi on est tellement outrés par ce fait-là? On devrait être autant outrés que ce soit de la viande de bœuf, finalement, puisque c'est aussi, enfin, quelle est la différence entre un cheval et une vache? Tous deux sont des êtres sensibles qui auraient bien voulu continuer leur vie au lieu de finir à l'abattoir. Et donc, bah, on peut se poser la question de pourquoi ce scandale autour des lasagnes à la viande de cheval qui continue de faire parler de lui. Et Fabrice Nicolino s'est intéressé, en fait, à la communication, c'est-à-dire à l'art du gouvernement d'essayer d'enterrer l'affaire. D'abord, on s'est désigné un coupable. Le coupable, c'était ces Roumains, désignation des Roumains comme étant les responsables de cette arnaque qui atterrissait dans l'assiette. Et justement, Fabrice Nicolino montre bien dans son article que c'était justement juste un coupable à désigner. On avait besoin de se ressouder au détriment, voilà, un bouc émissaire, de façon à montrer ça. Et puis, il montre en fait que on essaye de discréditer les articles qui vont dans le sens d'une meilleure transparence, etc. Donc je vous invite vraiment à lire cet article de Fabrice Nicolino, paru dans Le Monde. Fabrice Nicolino qu'on retrouvera à la manifestation de dimanche. Donc dimanche, départ à Montparnasse et on va vers le Salon de l'Agriculture, cette manifestation organisée par Novicène. Et puis je voulais vous parler rapidement aussi d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Respecter les animaux à petits pas », qui est écrit par Florence Pinault et Annelise Combeau. C'est un livre destiné aux enfants entre 9 et 12 ans, un livre vraiment bien fait si vous vous intéressez un petit peu au sort des animaux et que vous avez envie de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, hein, parce qu'il se destine aux 9-12 ans, mais franchement, il se lit vraiment, vraiment bien. Donc voilà, respectez les animaux à petits pas, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies et puis sur la boutique en ligne Del214, parce que vraiment, il nous a tapé dans l'œil. Il est vraiment chouette comme livre. Et puis, dernière petite chose, l'agenda. L'agenda, donc le 3 mars, dimanche, Paris, départ Montparnasse, arrivée, Salon de l'Agriculture. Le 27 mars, je vous invite à surveiller sur le site de L214. On aura une action spectaculaire. On va sortir de nouvelles images d'enquête sur la viande de lapin. Donc, ces lapins qui sont à 99% justement en élevage de batterie. Et puis, début avril, nous recommencerons la campagne sur les œufs de batterie. Vous le savez certainement si vous nous suivez sur notre site internet. On a obtenu L214, une petite victoire en face de Monoprix. Monoprix qui retire les œufs de poules élevés en cage de sa marque distributeur. Au 1er avril, on recommence la campagne pour essayer de sortir ces poules pondeuses des cages. Donc d'un côté, en continuant d'inciter Monoprix à aller jusqu'au bout de sa démarche, c'est-à-dire de supprimer l'ensemble des œufs de batterie de son rayon œufs coquilles, et de l'autre, on attaquera une campagne sur une autre grande surface. Et puis début avril aussi, le 4 avril, On aura un repas, le repas du jeudi veggie, qu'on proposera à la ville de Paris, notamment dans les restaurants collectifs du personnel de la ville de Paris. Donc ça, c'est un gros projet. Et le lancement officiel de la campagne jeudi veggie, qui aura lieu du 22 avril au 3 mai, et dont je vous reparlerai la prochaine émission. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, le 26 mars, de 11h à midi, avec ce coup-ci le thème justement du jeudi veggie, mais on reviendra aussi sur les thèmes d'actualité qui discutent un petit peu autour des animaux. À très bientôt et merci Philippe.
Merci, bonne journée, au revoir.
FM et midi.